Merci Seigneur de nous réunir ce soir pour te bénir et te louer, et aussi pour te présenter nos faiblesses, nos maladies, nos souffrances, pour venir aussi intercéder pour d'autres personnes comme beaucoup d'entre vous le font. Merci Seigneur de mettre dans notre cœur ton amour, ta paix, ta bienveillance, comme Thibaut nous le demandait tout à l'heure. Le Seigneur a vraiment un regard de bienveillance sur chacun d'entre nous, nous demande de nous regarder avec bienveillance. Nous allons maintenant lire l'évangile de Luc au chapitre 15, à partir du verset 11. Jésus dit encore, « Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, rassemblant tout son avoir, le plus jeune fils partit pour un pays lointain et il y dissipa son bien en vivant dans l'inconduite. Quand il eut tout dépensé, une famine sévère survint en cette contrée, il commença à sentir la privation. Il alla se mettre au service d'un des habitants de cette contrée qu'il envoya dans ses champs garder les cochons. Il aurait bien voulu se remplir le ventre des caroubes que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Rentrant alors en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires de mon père ont du pain en surabondance, et moi je suis ici à périr de faim. Je veux partir, aller vers mon père et lui dire, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Il partit donc et s'en alla vers son père. Tandis qu'il était encore loin, son père l'aperçut et fut pris de pitié. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa tendrement. Le fils alors lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des chaussures aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. » Car mon fils que voilà était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé, et ils se mirent à festoyer. Voilà, je n'ai pas terminé la parabole pour ceux qui la connaissent, ensuite les questions du frère aîné qui va refuser la miséricorde que son père accorde à son frère. C'est une parabole absolument magnifique que Jésus nous offre là. Et on ne peut pas mieux exprimer l'amour de notre Père du Ciel qu'avec cette parabole. Et pour cela, il faut un petit peu la méditer pour comprendre cette blessure profonde que le jeune fils a infligée à son père en lui demandant l'héritage avant que son père soit décédé, ce qui est une manière de dire à son père, « Maintenant, tu es mort pour moi. Je pars, tu as l'héritage, ça veut dire tu es mort pour moi. » C'est terrible pour un parent quand, peut-être ça vous est arrivé, pour l'un d'entre vous, quand vos enfants ne veulent plus vous voir, c'est comme si vous étiez mort pour eux. Il quitte son père et on comprend par la suite en fait ce qu'il reprochait à son père. En fait, il avait l'impression que chez son père, il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait. Il a l'impression qu'on lui imposait une morale et que c'était étouffant pour lui. Et donc, une fois qu'il est parti, eh bien, il va mener la vie qu'il voulait mener. Donc il va faire n'importe quoi, sans morale. Il va aller voir des prostituées, etc. Il va faire tout ce qu'il veut, sans mettre de limite à ses désirs. Il pense que là, il va être heureux. Mais très rapidement, les biens que son père lui a donnés sont dépensés. Et comme lui, il ne veut pas faire d'efforts, il ne travaille pas, il veut uniquement profiter de la vie, en jouir au maximum. Eh bien, il ne s'en rend pas compte, et il ne se rend même pas compte que les amis qui sont devenus ses amis à ce moment-là profitent probablement de ses biens. Mais une fois qu'il n'a plus rien, eh bien, il se retrouve tout seul, il n'a plus d'amis. Quand on vit comme ça, les amis qu'on se fait ne sont que des amis qui profitent de vous, évidemment. Pas demander d'avoir des amis véritables, quand soi-même, on agit ainsi par rapport à son père et par rapport à la vie. C'est pas possible. Les amis que vous avez à ce moment-là sont comme vous, c'est-à-dire qu'ils vont profiter de vous. Ils ont la même manière de concevoir la vie, sans morale, sans faire d'efforts, sans limite. Et quand il n'a plus rien, eh bien, ce fils n'a plus qu'à rechercher un travail, et là, personne ne veut l'embaucher, si ce n'est un homme qui possède un troupeau de cochons pour aller garder ses cochons, en lui disant qu'il n'a même pas le droit de manger la nourriture des cochons. Donc ce fils qui pensait être heureux, enfin, il disait, enfin, ça y est, la grande vie, enfin la grande vie, eh bien, ça a duré un certain temps, et puis ensuite, plouf, tout s'écroule dans sa vie, et le voilà réduit à être avec des cochons qui sont mieux nourris que lui. Et ce fils ne peut pas dire « Qu'est-ce que j'ai fait contre le bon Dieu pour que ça m'arrive ?» C'est stupide. Lui-même, il s'est mis dans la misère. Il n'a pas accusé Dieu, accusé son père, ou qui que ce soit. Et d'ailleurs, il ne le fait pas. Il a le bon sens de ne pas le faire. Vraiment, la misère le rend intelligent, cet homme. Avant, il était bête, si j'ose dire. Il pensait être heureux sans rien faire. Maintenant, la misère le rend intelligent. Il se met vraiment à réfléchir sérieusement parce qu'il a tout perdu. Il réfléchit que quand il était chez son père, ben finalement, il était heureux. Peut-être qu'il se plaignait tout le temps, mais en réalité, il était heureux. Parce qu'il avait tout ce dont il avait besoin. Il était aimé par son père. Et il se rend compte que même les mercenaires de son père, qui ne sont même pas ses fils, eh bien, sont encore mieux traités que lui aujourd'hui. Et donc, à ce moment-là, il prend conscience de son péché contre son père. Alors, c'est une prise de conscience un petit peu intéressée, si j'ose dire. Au départ, c'est un petit peu intéressé. C'est parce qu'il souffre qu'il prend conscience de son péché. Mais souvent, c'est un peu comme ça. Dieu le sait. Souvent, on prend conscience de son péché quand on commence à en souffrir. Quand on s'est endurci beaucoup dans le mal, souvent, on prend conscience de son péché quand on commence à en souffrir. Il y a plusieurs exemples comme ça dans la Bible. Par exemple, les frères de Joseph qui ont vendu Joseph à une caravane, puis ensuite Joseph a été emmené en Égypte. Ensuite, ils ont oublié ce qu'ils ont fait à leurs frères. Mais une fois qu'ils sont mis en tôle, à un moment donné, Joseph les met en tôle, ils commencent à se rappeler qu'un jour, ils ont été très durs avec Joseph. Ils font une prise de conscience parce qu'ils sont en tôle. Voilà. Et bien le fait d'être puni, d'être dans la souffrance, ça peut permettre, c'est pas obligatoire, mais ça peut permettre une prise de conscience. On peut redevenir intelligent, si j'ose dire. Et le fils donc envisage de revenir vers son père en lui disant « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi ». Donc vraiment, il sent qu'il a besoin de mettre de l'humilité pour que son père l'accueille. Il va faire une démarche d'humilité, il va s'humilier devant son père. « Je ne suis plus digne d'être ton fils. Je sais que je t'ai éliminé comme père, donc que toi, tu as toutes les raisons de m'éliminer comme fils. » Il a compris qu'il ne pourrait être sauvé qu'en faisant une démarche d'humilité, en s'humiliant lui-même. Alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'ensuite, on le voit revenir, il revient vers son père, et il n'est même pas encore arrivé à la maison, que son père déjà court vers lui, il voit son père qui court vers lui. Ça veut dire que, du côté de son père, il a laissé partir son fils, parce qu'il respecte sa liberté, Dieu respecte totalement notre liberté, si on veut ne pas aller le voir, eh bien, il nous respecte. C'est quelque chose que je demandais au Seigneur quand j'étais adolescent, je disais « Seigneur, tu as créé le monde, et en plus tu nous as sauvés, et en plus tout le monde s'en fout. Moi, quand je vais à la messe, il n'y a pas grand monde à l'église. Mais comment tu peux supporter cela? Comment tu peux supporter que tu as créé le monde? Tu nous as sauvés, et tout le monde s'en fout. Comment tu peux supporter que les hommes soient aussi ingrats avec toi ? » Bon, c'est un grand mystère. Donc, le Père l'attendait comme Dieu nous attend. Quand on le quitte, Dieu ne dit pas « Bon, ben, fous le camp, vieux schnock. » Non, quand on part, il est blessé, il souffre et il nous attend. Il espère qu'on va revenir. Vous voyez ce regard de bienveillance du Père sur son fils. Et quand il voit le fils arriver, il ne se dit pas « Bon, je vais lui pardonner que si mon fils fait ceci, ceci, cela, puis je vais lui imposer une dure punition, ensuite je lui pardonnerai. » Non, il court vers son fils et il l'embrasse tendrement. Comme si son fils n'avait rien fait. C'est dingue. Le père aime tellement son fils qu'il est tellement heureux de le retrouver qu'il oublie que son fils lui a fait quand même très mal. Alors, le fils encouragé probablement par l'amour de son père. Tellement d'amour, il ne s'y attendait pas. Il est complètement bluffé. Et il dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Il sort la petite formule qu'il avait préparée. « Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Et le père ne laisse même pas terminer tout ce qu'il voulait dire. Et il appelle tous ses serviteurs, parce que son fils, il doit avoir une robe déchirée, il doit puer, etc., pour que son fils soit lavé, qu'il soit revêtu d'une belle robe, qu'on lui remette un anneau, et il fait la fête. Et ça va complètement scandaliser le fils aîné qui dit, mais c'est moi, on m'a jamais fait la fête pour moi, mais le fils aîné ne comprend pas l'amour brûlant de son père. Et nous-mêmes, parfois, nous sommes soit le fils prodigue qui revient à son père, et quand le père nous pardonne, si on a vraiment compris l'amour qu'il nous donne, on est émerveillé. Et si on estime qu'on n'a pas beaucoup de péchés, ce qui d'ailleurs est toujours faux, mais bref, si on est un petit peu aveugle sur ses péchés, on se dit, mais comment Dieu peut pardonner à des gens comme ça? C'est pas possible, c'est impossible. Il faut qu'ils aillent en enfer tout de suite, ces gens-là. Voilà. Et pourtant, non, Dieu ne veut jamais jeter personne en enfer. On peut y aller en enfer, bien sûr. Si on ne veut pas de Dieu, Dieu ne nous obligera pas à aller au ciel. Mais si on s'humilie devant Dieu, si on lui demande pardon, vous voyez l'attitude du Père? Donc il n'y a pas à avoir peur de Dieu, il nous aime tellement, tellement, tellement. C'est fou comme il nous aime. Il y a de quoi pleurer, chanter, comme disait saint François, le louer, louer le Seigneur pour toute notre vie, quand on sait la manière dont Dieu nous aime. Maintenant, c'est vrai qu'on ne le ressent pas toujours, c'est un acte de foi. Quand je prie, je ne ressens pas cet amour. Quand je serai au ciel, rappelez-vous le témoignage de Stanislas qui avait été donné avant les vacances. Stanislas, cet enfant qui était tombé dans le coma, il a raconté après, quand il s'est réveillé du coma, qu'il est parti au ciel, il a vu Jésus, il a voulu l'embrasser. Et Jésus lui dit, oh, non, je ne t'embrasse pas, on ne s'embrasse pas parce que tu vas revenir sur terre. Et de fait, Stanislas, qui avait une lésion cérébrale, normalement qui ne devait pas être guéri, la lésion cérébrale a disparu. Donc il a été guéri, et il est sorti d'état végétatif. D'accord ? Tout ça, ça avait été annoncé à cette prière où personne était venu prier pour lui. Eh bien, Stanislas, il a vu Jésus toute sa vie, il se rappellera qu'il a vu Jésus et l'amour de Jésus. Bon, peut-être certains d'entre vous l'ont vu, mais la plupart n'ont pas vu cet amour de Jésus. Donc c'est un acte de foi de croire que Dieu nous aime autant. Mais si nous y croyons, quand nous arrivons au ciel, eh bien, ce sera comme Stanislas, on pourra embrasser Jésus, on pourra vivre ce bonheur de l'amour éternel auquel nous aspirons sur cette terre. Alors pour nous encourager, le Seigneur opère des guérisons dans cette assemblée, c'est pour ça que nous sommes là, pour recueillir toutes les guérisons qu'il veut nous donner. Et donc je vais vous donner quelques témoignages, par exemple celui de Marie-Corinne, qui m'a écrit une lettre, que je ne lis pas en entier, mais juste un passage. Donc Marie-Corinne, elle était venue à la prière des malades le jeudi 31 mai 2018, jour de la visitation. Il y a une parole de connaissance, le Seigneur guérit une personne du symptôme des yeux secs. Cette personne se met des gouttes dans les yeux tous les jours. Alors Marie-Corinne dit, aussitôt j'accueille cette parole et je sais qu'elle m'est adressée. Il faut être prudent, moi je demande toujours qu'on soit prudent, mais elle a fait un acte de foi. Seigneur, si c'est moi, je te rends grâce. Et elle dit, quand je suis rentrée chez moi, mes yeux étaient encore secs. Elle dit, mais confiance. Je pose un acte de foi, je dis dans mon cœur, Seigneur, j'ai confiance en toi. Alors ce soir-là, elle ne s'est pas mis de gouttes pour ses yeux secs. Alors moi, je recommande de ne jamais arrêter les traitements médicaux pour les maladies graves, parce que ça peut être dangereux. Pour les yeux secs, donc c'est pas très grave de ne pas se mettre les gouttes le soir. Et elle dit, le matin, mes yeux sont guéris. Douceur, amen, amen, merci Seigneur, toi le Père de l'univers, le Tout-Puissant, merci Seigneur, louange à toi. Voilà, puis ensuite elle transmet une prière. Donc Marie-Corinne, elle n'a pas été guérie tout de suite, elle a posé les actes de foi, et ensuite elle a été guérie. Parfois le Seigneur nous demande, ben voilà, est-ce que tu acceptes de poser un acte de foi pour que je te guérisse. Alors un autre témoignage, certains se rappellent que j'étais passé sur Radio Notre-Dame en février dernier avec quelques personnes de l'équipe. La semaine dernière, j'avais déjà donné un témoignage d'une personne qui avait été guérie, qui avait écouté l'émission. Là, c'est Joyce qui rend grâce à Dieu dans une lettre. Elle avait écouté Radio Notre-Dame à ce moment-là. Et de fait, il y avait une parole de connaissance qui annonçait qu'une personne qui avait commencé une neuvaine à Saint-Joseph allait signer un contrat en CDI. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que Joyce a signé ce contrat le jour même de la fin de sa neuvaine à Saint-Joseph. Donc, c'est bien un signe que c'est Saint-Joseph qui lui a permis de pouvoir signer ce contrat de travail en CDI. Et par ailleurs, elle rend grâce à Dieu parce qu'elle avait des problèmes de santé qui se sont résorbés progressivement depuis qu'elle vient à la prière des malades à Saint-Nicolas-des-Champs. En janvier 2018, il y a une parole qui a dit que le Seigneur était dans les détails. Depuis cette parole, Gladys voit le Seigneur agir chaque jour dans sa vie. Dans les petits détails de sa vie, elle voit l'amour du Seigneur pour elle, et cela a changé sa vie. Donc sa manière d'être heureuse a changé, puisque maintenant, elle voit le Seigneur dans les petits détails, les petites choses, un sourire, une parole, un cadeau, quelque chose. Dominique avait une addiction au chocolat. Bon, on peut se dire, ben, c'est pas terrible. Beaucoup de chocolat, moi le premier d'ailleurs. Mais elle a été guérie de cette addiction parce que ça lui provoquait des migraines. Des grosses migraines, donc elle devait en prendre pas mal. Et du coup, elle était entre ses migraines et ses addictions au chocolat. Et bien, le Seigneur l'a guérie de cette addiction au chocolat. Jocelyne est venue de Bretagne à la prière des malades le 18 janvier 2018. Depuis un certain temps, elle ne pouvait plus lire la feuille de chant à la messe, et même avec ses lentilles et une paire de lunettes en plus. Son ophtalmo lui avait dit qu'il ne pouvait rien faire de plus pour elle. Or, Jocelyne aimait beaucoup chanter à la messe. Elle était très triste de ne plus pouvoir chanter en lisant la feuille de chant. C'est beau, elle n'arrive plus à voir, mais ce qui l'embête le plus, c'est qu'elle n'arrive pas à chanter à la messe. On pourrait dire, bon, d'autres problèmes, elle, c'était son problème principal, de ne pas pouvoir chanter à la messe parce qu'elle ne pouvait pas voir. Ça a dû toucher le cœur de Dieu, ça. De fait, quand le Saint-Sacrement est passé dans la foule, une parole de connaissance a annoncé qu'une personne qui ne pouvait plus chanter allait pouvoir le faire à nouveau. Pas une personne qui ne voyait plus, mais qui ne pouvait plus chanter. Et à ce moment-là, Jocelyne s'est aperçue qu'elle pouvait lire la feuille jaune, donc la feuille de chant d'ici, qu'elle avait sous les yeux, et elle a rendu grâce au Seigneur. Et de fait, je l'ai appelée ensuite, et l'amélioration de sa vue s'est confirmée. Maintenant, elle voit beaucoup mieux. Béatrice souffrait dans son bras droit et ne pouvait plus en faire grand-chose depuis longtemps. Depuis une parole de connaissance, le jeudi 3 mai, elle ne souffre plus, et elle a retrouvé l'usage de son bras. Voilà, et puis un dernier témoignage, personne qui ne nous a pas donné son prénom, est entrée dans un chemin de louange, nous a-t-elle dit, depuis qu'une parole a été donnée à propos du Seigneur, qui nous invite à le louer. Depuis, elle loue le Seigneur toute la journée, et elle dit que son visage est devenu souriant. Voilà, bien, c'est un beau témoignage, puisque nous fêtons aujourd'hui Saint-François, qui nous invite à rentrer dans la louange. Donc, on peut demander cette grâce pour nous aujourd'hui, d'être dans la louange, de rentrer dans la louange durant notre vie. Maintenant, nous allons accueillir Jésus.